RMC, 19h-20h, l'After Tour.
Pierre-Yves Leroux.
À tous, tremble, oh grand Tadej Pogacar, un Belge roule sur ta trace, Poggi 3, Merlier 3, le coureur complet et le sprinter ont mis la moitié des étapes dans leur poche, 6 sur 12 dans ce Tour de France 2012 à Chalon-sur-Saône, Tim Merlier a confirmé définitivement qu'il était l'homme le plus rapide du peloton et mis encore un peu plus Philipsen et les autres à sa botte en partant de Nevers. Deux journées pour les sprinteurs conclues par une grosse chute à 500 mètres de l'arrivée dont on fera le bilan avec nos consultants. En cette veillée de transhumance vers le Ballon d'Alsace, le Markstein et le plateau de Solaison, on dressera également le portrait des forces en présence chez les Français et les favoris entre chaleur et orage. Le calendrier mondial du cyclisme sera aussi au menu de l'After Tour. Mais avant le ballon, revivons la journée en direction de Chalon.
Précédemment dans l'Intégral Tour sur RMC.
Bonjour à tous et bienvenue sur la route du Tour de France, le Tour qui aujourd'hui aborde la 12e étape de cette grande boucle avec une étape de plaine entre le circuit de Magny-Cours en direction de Chalon-sur-Saône.
56 km encore à parcourir, la Bretagne, ça vous gagne. Un duo breton à l'avant de la course, Baptiste Westhoffer et Ewen Koskiou. Les Finistériens sont à l'attaque, ils ont 51 secondes d'avance. Les équipiers de Jasper Philipsen et de Tim Merlier sont en train de faire l'effort pour revenir à 24 km et dans 5 secondes, le peloton sera groupé, même si quelques-uns à l'arrière ont du mal à suivre.
Il y a beaucoup de mouvements, c'est très rare à 10 km de l'arrivée de voir autant d'attaques qui sortent du peloton. C'est aussi signe que le peloton n'arrive pas à maintenir une allure assez haute pour empêcher ces attaques.
RMC, la flamme rouge.
Oh, le beau mouvement de l'équipe Alpecin. Juste sous la flamme, ils ont vu la porte s'ouvrir à gauche. Ils étaient au chaud et ils sont 3 pour emmener Jasper Philipsen. Si vous l'avez mis comme vainqueur aujourd'hui, c'est peut-être pas mal. Mais attention, attention à Tim Merlier qui va être sans doute très très bien emmené et qui décolle déjà avec ses équipiers. C'est Mathieu Vanderpool, la chute du Gaviria. On voit la 2, 3, 4 au sol. Alors que Mathieu Vanderpool a Jasper Philipsen dans sa roue. Que Milan Fretin est bien placé également. Que Mats Pedersen sur la gauche est bien. Jasper Philipsen sera peut-être le plus fort. Il est sur la droite. Milan Fretin qui est à la lutte avec Jasper Philipsen. Vinyam Germay et Tim Merlier qui doit passer en premier devant Lafcoy. Mais il s'est relevé assez tôt. Je pense que Tim Merlier s'impose au centre de la route, mais quel sprint encore avec une chute. Merlier qui salue et le peloton qui s'arrête parce qu'on a 3, 4, 5 coureurs. Coureur d'Ineos qui est au sol, on va surveiller. Il y a de la casse, on l'avait dit, on veut pas de chute. Et bien il y en a une à quelques centaines de mètres de l'arrivée et des garçons qui sont sonnés.
RMC, l'After Tour.
Et oui, ça a sonné, une chute, on le craignait dans ce final qui menait les coureurs à Chalon-sur-Saône. Et une nouvelle fois, Tim Merlier qui s'impose. Ça va être le menu du début de cet After Tour. Autour de la table, nos consultants, à commencer par Richard Virenque. Bonsoir Richard.
Bonsoir à tous.
Merci d'être avec nous, avec les Jérôme, Coppel, salut GG.
Salut Pierre-Yves, salut à tous.
Et Pinot, bonjour Monsieur Pinot.
Bonsoir Pierre-Yves. Bonsoir
et Christophe Cessieux en notre compagnie. Christophe,
salut
pour ce final qui a été mouvementé.
Chaotique.
Ouais, exactement. Et ce que je te propose, c'est qu'on attaque tout de suite avec les classements du jour. Alors, pas trop de mouvement, évidemment, et pas du tout même au niveau du classement général. Mais à nouveau, un classement d'étape avec des garçons qu'on attendait forcément, puis d'autres qu'on attendait un petit peu moins. Et surtout, il y en a qu'on n'a pas vu parce qu'ils ont été dans la chute, Christophe.
Oui, effectivement, la victoire donc de Tim Merlier. Troisième succès pour le sprinter belge de la formation Soudal Quickstep, qui ne laisse pas grand-chose à ses congénères sprinteurs. Il s'impose devant Olaf Coy, qui lui aussi a déjà remporté une étape, mais fait pas mal de places d'honneur depuis quelques temps. Jasper Philipsen, pareil, troisième. Il est habitué à cette troisième place. Guirmay est quatrième, Fretin cinquième. Le premier français, c'est Anthony Turgis, qui se classe au sixième rang. Pedersen, le leader du classement par points, est neuvième. Et puis, voilà, un peu plus loin, arrivé après la quinzième place, il y a eu effectivement cette chute qui a désorganisé évidemment le peloton. Chute intervenue quand même dans l'avant de ce peloton, puisque c'est Gaviria, l'un des sprinteurs vedettes de ce Tour de France qui a chuté, qui a donc emmené avec lui pas mal de garçons. On pense notamment à Dorian Godon, le sprinteur français de la formation Net Company Ineos, qui s'est relevé, qui a franchi la ligne, mais on ne sait pas vraiment dans quel état il est ce soir et prendra-t-il le départ demain. Là est toute la question. Au classement général, il n'y a pas de changement, puisque évidemment, Tadej Pogacar reste en jaune. Ayuso est toujours en blanc. Le meilleur grimpeur, c'est Pogacar.
Ça se resserre un peu sur le maillot vert.
Ouais, ça se resserre un tout petit peu sur le maillot vert.
Mats Pedersen,
qui a beaucoup donné, n'a pas réussi son opération du jour. Il a failli être déclassé du sprint intermédiaire, mais il a quand même empoché les 20 points. Il est en tête avec 357 points devant Guermail, 317, et Philipsen, 311. Le quatrième, c'est Tim Merlier. Mais lui, il s'en fiche comme de son premier cuissard de ce maillot vert.
En attendant, il prend des points quand même.
307 points quand même, presque sans le vouloir.
Ouais. Richard, c'est toujours un peu la crainte, et surtout avant des étapes de montagne comme ça, c'est gros chute, on n'en avait pas eu, on en parlait et quelques kilomètres avant l'arrivée pendant le direct en se disant on croise les doigts pour que ça passe encore aujourd'hui, et puis malheureusement dans les 500 derniers mètres la petite faute, quasiment rien, et puis les garçons au sol quoi.
Oui exactement, c'est la nervosité la nervosité des coureurs. Vous avez vu là, la première semaine on a fait des parcours vallonnés difficiles, tout le monde était en galère, donc forcément quand c'est comme ça, tout le monde est un peu à sa place et il n'y a pas de chute, il y a très peu de chute. Par contre, quand le parcours est très plat avec des vents favorables, tout le monde est dans les roues, tout le monde a du jus, et quand on arrive à la fin, tout le monde va frotter, il y a beaucoup plus de monde, nervosité et malheureusement un écart et c'est tout, et par terre, donc c'est presque normal. C'est presque normal. C'est pour pas avoir de chute, il faut quasiment mettre des difficultés. Et si on met des difficultés, les vrais sprinteurs ne sont plus là. Donc, à un moment donné, c'est le risque à prendre pour cette étape dédiée aux sprinteurs.
On n'a pas encore le bilan médical complet. Ça va tomber peut-être avant la fin de l'émission, Jérôme Coppel. Mais on a quand même quelques quasi-certitudes, j'ai envie de dire, vu les images à l'arrivée.
Alors, on a déjà deux certitudes. Fernando Gaviria et Berck Mohs se sont cassés la clavicule. Donc, pour eux, le tour est terminé. Et Christophe en parlait, Dorian Godon, commotion cérébrale et traumatisme costal. Ils n'ont pas dit s'il allait reprendre le départ, mais il est quand même très, très touché. Voilà, il faudra attendre le communiqué médical complet et surtout demain, parce que certains ne vont pas annoncer leur abandon ce soir. Ils vont attendre de passer la nuit, de voir comment ça va se passer demain matin sur les rouleaux. Et éventuellement même prendre le départ. Donc on va encore avoir des surprises demain avant l'étape et même pendant l'étape pour certains coureurs qui auraient chuté.
On y revient dans quelques instants avec toi sur cette chute et les conséquences. Mais l'info du jour, c'est quand même que Tim Merlier est vraiment le garçon le plus rapide de ce peloton. Richard, c'est vrai que tu le disais il y a déjà quelques jours, il y en a souvent un qui s'impose. Bon, cette fois, c'est sûr, c'est lui le plus fort.
Oui, c'est comme chaque année. Hein. Chaque année, il y a un sprinteur qui domine vraiment le tour, et il en gagne une, il en gagne deux, il en gagne trois, voire quatre. Donc c'est comme à la coutume. Mais en tout cas, la détente qu'il a, je pense qu'il aurait même pu en gagner une. Bon, ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu des circonstances de course. Mais bon, Tim Merlier, c'est incroyable. C'est super pour son équipe, hein, parce que le tour est réussi pour cette équipe. Et voilà, donc c'est... Pour moi, ça confirme un peu la règle. Les sprinteurs, quand il y en a un costaud. Bon, je regrette vraiment qu'on ait un élite français sprinter, un Paul aussi, et qu'il ne soit pas là, parce que j'aurais bien aimé le voir, on va dire, avec le vent en poupe qu'il a cette année sur le Tour de France.
Et oui, Paul Magnier qui n'a pas été choisi en numéro 1, mais ça viendra très certainement, on le verra.
Et qui est dans l'équipe Quick-Step, hein, donc c'est pour ça qu'ils ont peut-être, ils ont bien fait de choisir, parce que, on va dire, deux loups dans la même formation, on en a parlé hier pour les leaders, il aurait pu avoir, donc ils ont tranché, ils ont fait le choix, et bon, ils ont eu raison puisqu'ils ont gagné plusieurs étapes.
Exactement, et Romain Asselin qui nous a rejoint. Bonsoir Romain.
Salut l'after.
C'est évidemment trois victoires sur un même tour, ça reste quand même assez rare pour un coureur, et ça entraîne la grande joie de l'équipe, j'allais dire, Quick Step. très très rapide.
Il n'y a pas eu de triplé déjà l'année dernière et il faut remonter à 2024. Binyam Girmay avait claqué trois étapes. Jasper Philipsen aussi. Mais là, c'est vrai que Tim Merlier, avec sa vista là, qui s'impose sur les arrivées massives, fait le bonheur de cette équipe Soudal Quickstep. Alors, il a fallu courir pour aller au bus parce qu'il était très 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 loin de l'arrivée, hein, quasiment un kilomètre. Mais il y a eu une effervescence dès que les coureurs sont arrivés au compte-gouttes. Je pense à Van Wilder, à également Paré-Peintre, Valentin Paré-Peintre. Enfin, il y a eu des hommes qui se sont tombés dans les bras parce que on considère dans l'équipe que c'est d'autant plus fort ce que réalise Tim Merlier qu'on rappelle qu'il a perdu son poisson pilote fétiche en début de Tour de France, qui n'est pas passé les pentes du Tourmalet. Deux frères qui ne peuvent pas sprinter ensemble sur la ligne d'arrivée, il a fallu reconfigurer tout ça. Alors on connaît la capacité à Tim Merlier, et il l'a montré lors de sa première victoire, à revenir quasiment de nulle part en se frayant un chemin parmi tous les autres sprinteurs pour aller gagner. Mais Jasper Stuyven a fait le boulot, on l'a encore vu aujourd'hui dans le final. Il y a un travail collectif sur lequel on va insister dans quelques instants, mais je vous propose d'écouter tout de suite Jorgen Fauré, qui est le successeur de Patrick Lefebvre à la tête de cette équipe, manager général, qui insiste parce que c'est ce qui l'épate le plus chez Tim Merlier, sur la propreté de son coureur dans les arrivées massives.
Toujours prudent, toujours faire, toujours sans des choses bizarres ou sans pousser ou sans bloquer les gens. Et c'est toujours un sprinter qui utilise son vitesse et son focus sur l'arrivée. Il n'a pas besoin de rien pour gagner. Et ça nous montre aussi qu'on est très fiers de personne et du type de sprinter que Tim est.
Très fier du type de sprinter, très fier du collectif aussi, qui a fait un travail remarquable pour permettre à Tim Merlier de pouvoir sprinter aujourd'hui, parce que la course a été totalement débridée dans les 30 derniers kilomètres. Il y a un groupe d'une quinzaine de coureurs, d'une quinzaine de costauds qui est parti. On a vu la Soudal Quickstep œuvrer à l'avant du peloton, Louis Vervac notamment, qui a fait un gros effort pour revenir, et Tom Stills, le DS de cette formation, qui a insisté sur le fait que si ça avait pris 10-15 secondes de plus, ça pouvait aller au bout. Derrière, on a vu aussi un Valentin Paré-Peintre qui a été omniprésent dans le final. On l'avait vu hier aussi.
Et on l'écoutera d'ailleurs dans quelques instants.
Ouais, c'est ce que retient Tom Stills au sujet de Valentin Paré-Peintre. On l'écoute tout de suite.
Oui, au début, dans le final, hier, il était dans la rue de Van der Poel. Aujourd'hui, il était toujours dans la rue de Casper Asgreen. Ce n'est pas facile pour lui, mais c'est vraiment un bon équipier.
On sent qu'il a les jambes, mais est-ce qu'il en aura encore pour demain ou peut-être pour samedi aussi, pour la victoire d'étape, mais aussi des points pour la montagne?
Oui, mais on verra les prochains jours comment il va récupérer. Mais il y a beaucoup des étapes qui viennent, qui sont bien pour lui.
En tout cas, on sent qu'il a changé de dimension depuis sa victoire au Ventoux l'an dernier.
Il est plus fort aussi. Il a déjà, au début de la saison, il était fort. Et maintenant, je pense que ces étapes qui viennent, c'est facile pour être dans l'échappée parce qu'il va partir en montant. Alors, on verra.
Il faudra voir s'il n'a pas laissé trop de jus ces deux derniers jours, effectivement, ouais. Valentin Paré-Peintre.
Bon, ça devrait aller, je pense, Jérôme. Tu fais une petite moue à l'heure de dire. Ça devrait aller pour Valentin.
Oui, parce qu'il a aujourd'hui fait deux, trois beaux efforts, mais c'est des efforts instantanés, à un moment précis. Il n'a pas roulé toute la journée, il n'a pas été inutilement à l'avant aujourd'hui. Il a participé au collectif, et ça, c'est important. Il aura besoin d'aide de ses coéquipiers, peut-être demain, peut-être après-demain, rien que pour le lancer, pour l'abriter, pour aller le déposer dans la bonne échappée. Donc il fait partie d'un collectif. C'est la mentalité de cette équipe, c'est-à-dire que jusqu'à l'année dernière, il y avait Remco et on était focus sur un coureur. Maintenant, chacun a sa liberté, mais on demande à chacun, malgré ses qualités, d'œuvrer pour le collectif. C'est ce qu'a fait aujourd'hui Valentin, et ce sera forcément remboursé dans les jours prochains.
Voilà, je précise juste que Jorgen Fauré disait justement à la fin, là, au bus, on saura s'en souvenir.
Ouais. On rappelle qu'il est également placé pour le classement du meilleur grimpeur. Oui. Il est quatrième, 18 points. On rappelle que le leader, c'est Tadej Pogacar à 42 points. Mais là aussi, on s'en souvient, c'était l'un de ses objectifs en début de tour, d'aller chercher les poids. Donc on verra demain, après-demain et après-après-demain.
On parlera
la semaine d'après.
On parlera des Français.
Commence maintenant.
En fait. Oui, tout à fait. On en parlera tout à l'heure, mais on l'écoute. Tiens, justement, Valentin Paré-Peintre, après ce travail pour le sprinter maison.
Ouais, je pense encore plus aujourd'hui que lors des autres victoires, on a été beaucoup, beaucoup attaqué dans le final. Donc voilà, tout le monde a dû aider pour garder le peloton en un seul morceau. Donc ouais, c'était compliqué, mais aujourd'hui toute l'équipe a fait vraiment un super boulot. C'était un gros danger pour nous quand ce groupe est parti, mais encore une fois on a bien réagi, même Jasper Stuyven qui était plutôt plutôt là pour le dernier kilomètre, s'est tout de suite mis à rouler. On a réussi à boucher l'écart. Voilà, il n'y a pas eu de grande inquiétude, même s'il y a eu un petit stress quand on a vu le groupe partir.
Une nouvelle fois, en revanche, c'est la déception pour l'équipe Alpecin qui pourtant mais arrive de façon parfaite. C'est un TGV qui déboule sur la gauche sous la flamme rouge. On se dit, mais là, ça va être sans souci pour Jasper Philipsen.
Ah, il y a encore moins de regrets à avoir du côté de l'équipe Alpecin Phoenix, Alpecin Première Tech, pardon. C'est qu'ils n'ont pas la canne, ils n'ont pas le sprinter. Mathieu Van Der Poel, je l'ai déjà dit, ne sort pas de la boîte Jasper Philipsen comme il avait l'habitude de le faire. Et Philipsen n'est pas capable de conclure. Il est, vous savez, le sprint, c'est bien, il faut aller vite, mais il faut surtout être en forme. Et pour moi, il n'est pas dans la forme de sa vie. Et il est battu par plus fort. Il peut le tourner dans tous les sens. Ce soir, il est emmené, mais comme sur un tableau noir. Bah c'est-à-dire, c'est respecté à la lettre. Ils ont mesuré leurs efforts dans le final un peu tourmenté avec beaucoup d'attaques. Ils sont restés solidaires, ils sont restés ensemble. Mais ça ne marche pas parce que le sprinter n'est pas le plus vite du peloton.
C'est un TGV, la formation Alpecin, mais il y a un dragster, c'est Tim Merlier, qui rattrape le TGV et qui le dépose sur la ligne. À chaque fois, c'est la même chose.
C'est des sprints aujourd'hui où il y a une seule équipe qui emmène en général, et après, derrière, autour, ça frotte. Moi, dans l'approche des 500 derniers mètres, avec Gégé, on a tout de suite vu Merlier. Et il s'est mis, mais à l'endroit idéal, dans le train Alpecin, sans aller frotter. Il avait une espèce d'air autour de lui. Ça s'est un peu resserré, il était obligé d'arrêter de pédaler. Et d'un coup, et même Pedersen le respecte tellement que quand il est passé à gauche, Pedersen s'est quasiment écarté. Et on le voit dans le sprint, il va
plus vite.
C'est un vrai regret, c'est que les arrivées au sprint ne soient pas filmées du dessus.
Bien sûr.
Parce que là, tu vois toute la tactique, tu vois comment les mecs remontent, comment les trains se forment. Là, l'arrivée filmée de face, mais je comprends pas pourquoi on en est encore à cette.
C'est d'ailleurs assez intéressant ce que t'expliques, Jérôme, puisqu'on commente ensemble. Et que moi, je suis focus sur les Alpecin parce que je les vois vraiment très, très bien organisés. Donc, je reste focus sur vous, sur eux. Et vous êtes plutôt focus sur Merlier en vous disant tiens, c'est intéressant, il est pas forcément le mieux placé, mais on voit qu'il va plus vite.
C'est difficile de juger quand même quand ça joue très peu. Là, ça joue pas à très peu.
De face, tu vois rien, même dans le commentaire en direct, ça va tellement vite, t'es même pas sûr que ça soit vraiment Merlier. Alors lui, il lève la main parce qu'il voit qu'il a un demi-vélo d'avance, mais nous on voit pas. C'est hyper dur.
Merlier, pour un commentateur comme toi qui fait le sprint, C'est du fumier parce que il arrive toujours de nulle part.
Exactement.
Merlier, tu le vois pas arriver.
Dernier moment.
Et évidemment, dans t'es focus sur ceux qui sont devant en train de mener. Et nous, on a ce réflexe-là. Pourquoi ? Parce qu'on sait, on a vu Merlier, par exemple, gagner à l'UAE Tour. Je ne vais pas vous mentir, je pense qu'au 200 mètres, il est 20e. Et il arrive, il fait une large courbe avec une vitesse. Il est le plus vite du monde. Alors parfois, ça ne souffle pas, le timing n'est pas bon comme hier. Et là, il fait 18e. Mais quand il a l'ouverture, il est intouchable.
Mais il fait aussi, soit il est devant, soit il gagne, grosso modo, soit il est 18e. Ça rejoint ce que dit son manager général. C'est aussi parce que c'est un sprinteur très propre. Il ne va jamais passer là où ça ne va pas passer et risquer d'aller au carton et d'emmener les autres au carton. Tu ne le vois jamais sortir un coup de Tim Merlier. Très rarement. Des fois, ça frotte, c'est normal. Mais il est vraiment très propre. Et il arrive, ce qui est dingue avec lui, c'est qu'il est toujours, il a dit dans l'interview, box-in. Il est dans la boîte, dans la boule. Et il arrive toujours à trouver un moyen pour sortir de là. Il choisit toujours le bon côté. C'est hyper dur quand tu es à 200 mètres de la ligne, que tu roules à 70 km/h. Bah, il trouve toujours une ouverture.
72,7 la vitesse moyenne.
Sur les
la
500 derniers mètres. Ouais, exactement. Christophe, je disais, il est à 3, donc c'est pas si commun de gagner 3 victoires d'étape sur un tour, mais c'est très loin des records.
Ah oui, les records, mais évidemment. Alors, c'était un autre temps, et puis c'était une autre forme de coureur. Freddy Mertens, vous vous en souvenez, 1976, sprinter belge. Il était sprinter, mais il avait aussi gagné cette année-là le prologue, le contre-la-montre et le contre-la-montre par équipe. Donc finalement, il était à 5 victoires au sprint, mais il était hyper complet à tel point qu'il avait aussi remporté une Vuelta. C'était quand même les années Merckx, mais il était très fort. Les sprinteurs purs, c'est Mark Cavendish qui détient le record. 6 victoires en 2009, 5 victoires en 2010, 5 victoires en 2011, 4 en 2016 et en 2021. Donc énorme. Et puis on rappellera également Marcel Kittel qui, lui, en 2017, avait obtenu 5 bouquets. C'est pas mal. Donc Merlier peut faire mieux. Mais enfin, il y avait plus d'étapes qui arrivaient au sprint que cette année.
Hein. Cette année, avec 5 chances au sprint, parce que les chances,
3 sur 5, c'est pas mal quand même.
On peut même pas trop la compter comme une arrivée au sprint. Donc, 3 sur 5, c'est un bon ratio.
Exactement. Et dans ce sprint magnifique, il y a eu cette chute à 500 mètres. On en parlait tout à l'heure. Richard, tu as des souvenirs, toi, d'arriver comme ça, très chaotique. Peut-être que tu as été pris, toi, même si tu ne mêlais pas forcément au sprint.
Notamment Armentières avec en 94 avec Laurent Jalabert.
Image incroyable.
Ouais, avec Abdou Japarov. Donc aussi, oui, bah comme je vous ai dit, les sprinteurs, c'est vraiment des coureurs à part. Hein, donc ils sont dans leur bulle et ils prennent des risques incroyables. Mais bon, ils ont pas peur. En fait, c'est ça. Hein, c'est l'inconscience, pas peur. Ils sont déconnectés de. Mais ils sentent. Hein, ils se sentent à l'aise. C'est comme aussi un descendeur. Moi, j'étais un bon coureur dans les descentes de col. Il y a des coureurs qui sont frustrés dans la descente et vous le voyez. Tout de suite, un coureur qui descend mal dans le peloton, c'est-à-dire comme s'il avait des hérissons sur le dos, il est cambré, il prend des mauvaises, mauvaises trajectoires.
Position.
Donc c'est où vous l'avez, où vous l'avez pas, où vous avez peur. La peur peut vous bloquer, frustrer. En tout cas, les sprinteurs, il y en a qui ont vraiment les atouts pour faire cela, et c'est pour ça qu'ils puissent le faire. Ils ont aussi la puissance. Tim Merlier, il a une détente. Moi, il y a deux jours, il m'a impressionné. Il est parti, il y avait une cassure, il est parti de derrière, mais il est revenu, il a fait une Pogacar, quoi. Donc, il est revenu, merci, au revoir, quoi. Incroyable.
On rappelle qu'il vient du cyclocross, donc il est plutôt agile sur son vélo. C'est ce qui lui permet peut-être aussi d'échapper aux chutes. Moi, je n'ai pas souvenir d'une grosse gamelle de Tim Merlier dans une chute. Peut-être sur le Giro, il me semble le rappeler, il y a quelques années. Mais enfin, ce n'était pas non plus...
C'est rarement lui qui les provoque, en tout cas. Alors, ouais. Après, ça n'empêche pas qu'il est dans l'emballage final, ça chute devant. Il a beau être très habile sur son vélo, il va tomber. Mais comme tu dis, il vient du cyclocross, Tim Merlier. Au départ, il attaque sa carrière chez les professionnels sur la route, dans l'équipe d'Alpecin, avec Philipsen, avec Mathieu Van Der Poel. Il a longtemps été dans cette équipe, et cette équipe, il partageait le calendrier en plusieurs morceaux avec chacun des leaders, Van Der Poel, Philipsen et Merlier. Et ça gagnait dans toutes les courses en Belgique quand ils étaient à l'échelon inférieur. Ils étaient redoutables en termes de points UCI. Moi, je comptais les points UCI le matin au bureau en arrivant. Voilà, ils en ont mis combien encore ce week-end ? Parce qu'il y avait toujours des mecs qui allaient vite chez eux. Et en Belgique, on sait qu'aller vite, tu mets beaucoup de points.
Aujourd'hui, la faute, alors c'est jamais évident, mais c'est Gaviria. C'est Gaviria qui touche en fait la roue arrière de Baos.
C'est celui qui va le premier au sol, Gaviria. Ouais. Mais il n'y a pas vraiment de faute. Quoi.
Oui. Il voit, franchement, il voit une ouverture sur la gauche, il se dit c'est là qu'il faut que j'aille. Et puis au moment où il prend cette direction, il touche la roue, ça fait de la casse derrière.
Il y a la même chose pour Merlier qui lui arrive à arrêter de pédaler et on le voit, il fait un mouvement de retrait de son vélo.
Avec Milan Fretin.
Là, c'est la lucidité. Gaviria, il n'a pas la même, je pense qu'il est un peu plus.
T'es à plus de 70 km/h quand même. Hein. Il faut avoir
le même réflexe.
C'est incroyable,
un
réflexe.
Il faut exactement. Se relancer après.
Ouais, en plus.
Ouais. On a toujours notre rubrique carton. Aujourd'hui, c'est un carton vert de Jérôme Coppel.
RMC, l'After Tour,
le carton.
Ça aurait pu être un carton rouge avec l'hémoglobine à l'arrivée. C'est un carton vert, Jérôme, parce que tu as vécu, vous avez tous vécu ça, vous les anciens, des chutes, on est complètement râpés. Et là, on pourra faire la liste tout à l'heure, on aura le bilan médical complet, mais ils sont nombreux à être tombés. Certains ne repartiront pas demain et certains vont se coucher tout à l'heure avec vraiment de grosses douleurs.
Oui, justement, c'est un carton vert un peu anticipé sur ce qui va se passer un peu demain. On a dit, certains, c'est acté. Gaviria, par exemple, Berckmos ne vont pas reprendre le départ du Tour demain. Mais pour d'autres qui sont tout pluchés de partout, on pense à Dorian Godon notamment, ça va être le Tour, peut-être un chemin de croix pour terminer jusqu'à Paris. C'est marrant parce que j'étais au départ du Tour de France 2013 et il y a eu beaucoup de similitudes avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous allez comprendre, Tim Merlier, dans son interview, dit « j'avais pas d'oreillette, j'avais des problème d'oreillette, etc. Je me suis débrouillé. Rappelez-vous la première étape du Tour du Centenaire en Corse, le bus Orica Green Edge est coincé sous l'arche. Et là, nous, dans le peloton, c'est le chaos.
Vous êtes à 20 km, vous, de l'arrivée.
Même pas, 25, 15 km. Ouais, et là, on nous dit, il y a un problème, arrivé à 5 km, arrivé à 3 km, arrivé à 1 km. C'est le gros bazar. Moi, je me remets, bien sûr, je n'allais pas aller sprinter. Je me mets à l'arrière du peloton. Je me dis, là, je suis peinard. Il y a une grosse chute, je me fais percuter. Et comme Dorian Godon, traumatisme costal. Première étape du tour. J'étais pluché partout, sauf dans le dos. Devant, les deux jambes, les deux bras, traumatisme costal. Et là, tu te dis, OK, j'ai encore 20 étapes à aller faire comme ça. Et là, si c'est c'était pas le Tour de France, je rentrais à la maison, le soir même, c'était plié. Mais c'est le Tour de France, t'y vas et tu galères. Et Marcel Kittel, t'en as parlé Christophe, qui gagne ce jour-là, dit j'ai gagné parce que mon oreillette marchait pas. Pour moi, l'arrivée était toujours au même endroit. Donc il y a beaucoup de similitudes dans ce qui s'est passé aujourd'hui et ce qui s'était passé en 2013. Mais là où je mets mon carton vert, c'est pour ces... On parle souvent des guerriers de la route, mais c'est pas que parce qu'ils font 3300 km de vélo. Ils font 30 000 km par an, ils sont entraînés pour ça. Ça, c'est pas que ça. C'est les conditions météo, on en a parlé, du chaud, du froid, et c'est les gamelles. Demain, il y en a, ça sera plus des coureurs, ça sera tout en camon, les mecs. Ils vont être plein de bandages de partout, et tu dois, j'ai compté, il leur reste 1363 km encore à faire jusqu'à Paris.
Et combien de dénivelé, t'as pas calculé?
Non, j'ai pas osé me lancer sur le dénivelé, et ces mecs-là, ils, ce soir, ceux qui sont encore debout sur leurs deux jambes, ils se posent pas la question de se dire, on va remonter sur le vélo demain. Bien sûr qu'ils vont y aller. S'ils ont rien de cassé, ils vont y aller. Alors, je vais... pas me faire des amis et c'est pas grave, mais on a regardé, on est en pleine Coupe du Monde de foot, on a regardé les matchs. Quand tu prends un petit coup et que tu tournes, tu fais des roulades, t'es bientôt sorti du stade tellement t'as roulé et que deux minutes après t'es en train de courir comme un lapin, ça me fait doucement rigoler. Donc oui, on va taper sur le vélo parce qu'il y a du dopage, mais on dit pas quand les mecs sont pluchés de partout et qui sont vraiment des guerriers pour repartir. Parce que le corps, l'énergie qu'il va mettre à ces coureurs pour guérir, c'est de l'énergie qu'ils ont pas à récupérer et à mettre sur les pédales pour pousser des watts. Mais ces mecs-là, ils vont pas arrêter. Ils vont continuer. Et il y en aura d'autres, malheureusement, des chutes d'ici Paris. Et tous ces mecs-là, ils vont continuer. Et il y en a au mépris de leur propre santé. Je veux dire, le sport de haut niveau n'est pas bon pour la santé. Quand tu es pluché de partout, c'est encore moins bon pour la santé. Mais tu ne te poses pas de questions. Certains vont dire, oui, mais c'est leur travail. Oui, c'est leur travail. Ils sont contents de le faire. Personne ne les oblige à être au départ. Mais ils sont là pour aussi la performance et ils continuent parce que c'est des guerriers.
Mais est-ce qu'il ne faudrait pas que les médecins d'équipe, en voyant l'état de certains coureurs, même s'il n'y a pas de fracture, leur disent, écoutez les gars, vous n'êtes pas en état de continuer. Comme il y a des protocoles commotion dans le rugby ou même maintenant dans le vélo, est-ce que ce ne serait pas le rôle de certains médecins de dire stop les gars?
Je vais reprendre mon exemple. GG, tu étais là au Tour 2013?
Oui.
Tu étais chez Quick Step? Ouais, en Corse.
Ah oui.
T'étais chez Quickstep?
Oui, parce que Tony Martin, voilà, j'ai jamais vu un mec.
Là où je viens. Alors, ah oui. Moi, j'ai expliqué, pluché de partout, béquille, je ne peux plus marcher. Le médecin me dit, laisse tomber, c'est la première étape, abandonne. Je dis, là, je ne peux pas marcher, mais peut-être que demain, je peux pédaler. Donc, il m'a proposé ça. Ça n'arrivera pas. Tony Martin, donc moi, je suis en train de me faire soigner au bus, j'étais chez Cofidis à l'époque. Tony Martin sort du bus de Quickstep en civière. Il est porté sur une civière de l'intérieur du bus à l'extérieur du bus. C'est pas de question. Tony Martin, le Tour de France, c'est terminé. 5 jours plus tard, il ira gagner le chrono. Je sais plus où c'était. Il va le gagner le chrono.
3 jours après, on perd pour 1/100 alors qu'il a des blessures. S'il n'est pas blessé, on gagne.
Mais les médecins, bien sûr, c'est leur rôle en plus, la prévention. Donc ils disent, est-ce que ça vaut vraiment la peine que tu continues le tour? Et le staff, c'est pas on te paye, tu continues tant que t'as rien de cassé. Non, non, ils sont d'accord pour dire si c'est trop douloureux, ça va pas. Mais nous, on veut pas.
Mais c'est le coureur qui a le dernier mot, c'est pas le médecin.
Oui, alors sauf si commotion, par exemple, commotion, le coureur, au bout d'un moment.
Il est plus lucide.
Plus lucide, mais 20 minutes après, ça va mieux. Bah, lui, il va vouloir y retourner sur le vélo. Et là, le médecin, il dit non, non, non. Comme Thorsten Trenn, qui a terminé l'étape, mais qui n'a pas pris le départ le lendemain. Mais quand tu n'as pas de commotion, hors commotion ou hors chose cassée, c'est le dernier mot revient au coureur.
Ouais, Richard, il défend bien la corporation, hein, Jérôme Coppel.
On va le désigner leader syndical des coureurs.
Mais il a raison, évidemment. Jérôme Pinault, dans un instant, on va s'intéresser avec Jérôme Coppel, avec Richard Virenque, aux Français. La Décathlon CMA-CGM qui sera en veillée, bien sûr, d'un triptyque là, jusqu'à la journée de repos. Très intéressant avec le ballon d'Alsace, le Markstein à venir notamment. Des grosses difficultés. On fait une petite pause et on revient.
RMC, l'After Tour. RMC, l'After Tour.
Pierre-Yves Leroux.
Dol Belfort, voilà déjà... un programme sérieux, même si ça va être un peu une entrée. On aura l'entrée, le plat et le dessert là, en 3 jours. On va pouvoir détailler ça dans quelques instants. L'étape de demain, donc, avec ce ballon d'Alsace, je le disais. Léna Marjac nous a rejoint. Bonsoir Léna.
Bonsoir tout le monde.
Toujours au plus près de cette équipe Décathlon CMA CGM et de Paul Sexas. Alors il y a eu le sprint Olaf Koy deuxième. Voilà, on va surtout pouvoir se consacrer désormais dans cette équipe au leader, à Paul Sexas, à notre jeune français. qui doit avoir une petite appréhension peut-être encore de ce triptyque à venir.
Bah, il sait effectivement qu'il sera attendu sur ce week-end, surtout que voilà, au classement général pour l'instant il est cinquième, il est à 29 secondes du podium, à 13 secondes aussi du maillot jaune, et on le sait, hein, ils l'ont annoncé avant le début de ce Tour de France, c'est que l'objectif c'est le classement général, donc c'est d'être le plus haut possible, donc les attentes vont être hyper hyper importantes autour de lui sur les trois prochaines journées, et donc d'ailleurs Paul Sexa s'est exprimé sur ça, sur son début de tour et surtout les objectifs à venir.
Courir comme je fais, m'accrocher, voir ce que je peux faire. J'ai bien géré mes montées, pas faire d'erreurs, pas me brûler les ailes directement, pas me laisser emporter par les émotions. Et pour l'instant, je pense qu'on le fait très bien avec l'équipe. L'équipe fait un très beau boulot pour me placer. Tous les mecs sont solides, donc franchement, c'est top. On verra au fur et à mesure des jours. Il y a des coureurs qui sont quand même plus expérimentés, qui ont déjà fait des podiums sur le tour. Donc ça va pas être facile, mais je vais me battre jusqu'au bout et j'espère que ça va continuer ainsi.
Et c'est vrai, il parle de ses coéquipiers. On a vu notamment un Nicolas Prodhomme extrêmement en forme. Donc c'est vrai que ça peut annoncer de belles choses. Et surtout aussi, c'est que dimanche, une arrivée au plateau de Solaison, c'est chez lui, à domicile. Il risque d'avoir du monde pour le soutenir. Donc peut-être qu'on peut attendre un grand Paul Sexa, notamment dimanche devant son public. Mais on l'a entendu, les ambitions sont là et on espère. Et il espère surtout, et l'équipe Décathlon CMA-CGM, aller chercher ce podium.
Richard, je disais, il y a une entrée, un plat, un dessert à venir pour Paul Sexa. Il faut être un petit peu observateur, en retrait, notamment dans la journée de demain. Il ne devrait pas se passer grand-chose sur la lutte entre les grands.
Oui, je suis d'accord. Demain, ça va être encore une journée où on va s'observer. On va penser très fort au week-end. Et comme le disait Paul Sexa, il va arriver chez lui, sur ses terres. Vous imaginez, on va dire, l'émotion, la pression, le public, tout ça. Il va vouloir mettre une étincelle à son âge et ça peut fonctionner, hein, je pense. Donc non, on a. Ben, moi, franchement, j'ai hâte de me trouver ce week-end. Bon, mais bon, il faudrait pas lui mettre tant de pression parce qu'il est jeune et ça peut aussi, la pression, on peut d'un coup plus se mettre à dormir, moins bien récupérer et la peur de ne pas réussir. Mais bon, il a l'air détente, il a l'air mature, tout ça. Donc on va croiser les doigts, mais. C'est clair que ce week-end, ça va être très fort pour lui, quoi.
Jérôme Pinault.
Moi, je suis dans l'analyse de ces trois étapes. Je pense qu'il y a demain, observation, échappée, qui ira au bout. Il n'y aura pas de grande manœuvre parmi les tout grands favoris, sauf si on sent la faiblesse chez les uns ou chez les autres. Je ne vois pas des grandes manœuvres demain. En revanche, après-demain, l'étape du Markstein va être une étape très importante. Très importante, surtout pour le collectif. Et là, j'ai l'impression que son équipe, elle est capable d'être solide. Ça va être un peu les mêmes montées, les mêmes pourcentages que ce qu'on a vu avec l'arrivée l'autre jour dans le Cantal, le Lioran. Voilà. C'est un peu la même étape. Là où il y a un vrai test, c'est Solaison. Là, il y a une grosse étape. Là, on peut.
Mais il connaît.
On peut perdre beaucoup de temps. Et il faut avoir une équipe solide. Alors, il connaît, c'est sûr. Mais quand t'es pas bien. Moi, je connaissais bien Alpe d'Huez, je pétais tous les ans. Tu vois, il faudra être solide, évidemment, mais je pense que l'équipe a besoin de découper cet acte en trois fois. On va dire rester sur la défensive demain, samedi, être plutôt neutre et suivre les coups. Et par contre, s'il y a possibilité de porter un coup fatal à l'aube de cette journée de repos avant de monter sur le vélo de chrono mardi prochain, il ne faudra pas hésiter pour regagner la place qu'on a tous envie qu'il occupe, c'est-à-dire entre la deuxième ou la troisième, s'il sent que des Ayuso, des Del Toro, des Vingegaard, des Evenepoel, des Lipovits sont en difficulté, alors dans la montée de Solaison, il faudra y aller, il faudra voir la première attaque de Paul Sexa de ce tour.
Jérôme Coppel, demain, ça ressemble à quoi cette étape? On a l'impression qu'en fait, c'est pour les sprinteurs jusqu'à 50 km de l'arrivée, quoi.
Bah, c'est à peu près ça. Pour vous donner une idée, les étapes, elles sont classées par coefficient. C'est le même coefficient 2, c'est le même coefficient que l'étape Carcassonne-Foix remportée par Mats Pedersen, par exemple. Mais ce n'est pas tout à fait le même profil quand même, hein. Donc, on a les 150 premiers kilomètres quasiment plats, légèrement vallonnés, on va dire. Et ensuite, dans les 50 derniers kilomètres, on a deux difficultés, une de troisième catégorie, le col des Croix et surtout le ballon d'Alsace, 9 km à 6,9%. Et derrière le ballon d'Alsace, une grande descente. Alors 15 km vraiment descendant et 15 km jusqu'à la ligne d'arrivée, faux plat descendant en fond de vallée. L'arrivée est en haut du ballon d'Alsace si vous êtes un bon descendeur. Attention, on ne sait pas, Christophe a parlé pendant le direct de la météo de demain, pourrait avoir une incidence. Si vous êtes un très bon grimpeur, un mauvais descendeur et que vous n'avez pas pris suffisamment de temps dans la montée, ça peut faire des écarts. Et rappelez-vous, même dans ceux qui descendent bien, se rappelle la descente du Tourmalet, Tadej Pogacar a repris du temps à Jonas Vingegaard derrière lui par exemple. Donc faudra et être un bon grimpeur. Alors, il faudra avoir du pif demain pour essayer de prendre l'échappée parce que sur 150 km, plutôt vallonné, tout le monde va vouloir envie d'être, aura envie d'être dans l'échappée. Ce n'est pas comme si on partait en côte et que c'était une échappée de costaud. Donc, il faudra être aidé, peut-être Tim Merlier pour Valentin Paré-Pinte, par exemple, pour l'éjecter dans l'échappée. Donc, il faudra avoir du pif pour prendre la bonne échappée. Il faudra bien grimper sans laisser trop de cartouches au début pour prendre l'échappée et être un bon descendeur. Sinon, impossible de gagner.
Richard, c'est peut-être ça un peu le secret particulier de cette étape telle qu'elle est dessinée demain, c'est que le vainqueur, c'est peut-être le meilleur descendeur du peloton.
Oui, le meilleur descendeur est celui qui passe au travers les embûches, hein, parce que vous avez vu depuis plusieurs jours la canicule qu'on a eue en France. Il n'y a pas eu d'averse encore, à part quelques endroits. Mais quand il fait très chaud comme ça pendant beaucoup de jours et il se met à pleuvoir les premières gouttes, ben, je peux vous dire que là, il faut vraiment s'accrocher et avoir la chance avec soi, hein, parce que ça va glisser. Et donc, ce n'est pas ce que je leur souhaite. Mais donc, voilà, il y a le facteur chance qu'il faudra avoir. Mais il est clair que l'échappée, ceux qui vont partir, un grimpeur de cette échappée va pouvoir s'envoler et aller gagner. Hein. Je ne vois pas un sprint massif, le peloton ensemble. Ça va être trop dur pour qu'il y ait un sprint massif demain.
La météo, le
ouais, alors finalement, point, c'était très pessimiste tout à l'heure, c'est un peu moins pessimiste. Il devrait pleuvoir demain matin et demain en fin d'après-midi vers 19h-20h. Donc, a priori, le peloton devrait échapper aux gouttes une nouvelle fois. Ils sont vénères quand même, parce qu'aujourd'hui, c'est pareil. Les orages sont passés au nord et au sud de Chalon, mais quasiment pas sur le peloton.
Là, les températures au-delà de la pluie
ouais, ou alors, à l'arrivée
savoir
à Belfort,
s'il y aura du lait chaud dans la descente à Long d'Alsace.
À l'arrivée à Belfort,
le lait sera chaud ou il sera
entre 26 et 27 degrés demain.
Allez, pas de reçuage, Dédé va pas faire de conneries sur la route, ça devrait bien se passer.
On va essayer de se concentrer sur les Français. Alors, il y en a un qu'on verra plus. Je pense qu'il l'a prévenu, on l'a suffisamment vu, c'est Baptiste Westhoffer. On lui rend hommage juste là en deux mots sur ces 10 jours de Tour de France où il a encore été présent aujourd'hui. En plus, il était tout seul devant et puis il y en a qui sont revenus quand même.
Bah, tu le verras demain, Baptiste.
Sur les 150
bornes, dans la dernière montée, mais il sera devant dans cette échappée.
Ben on l'écoute, on va voir s'il sera demain.
Pour moi, aujourd'hui, c'était l'étape où je m'étais dit, bon, une bonne échappée, tu vas bien sélectionner, il faut être dans l'échappée aujourd'hui. Mais je pensais qu'il voilà, il y aurait eu des coureurs un peu plus solides et des plus grosses équipes, parce que c'était la dernière journée pour avoir, pour moi, un gros résultat. Et c'était vraiment une journée intéressante où on pouvait bien jouer avec le peloton, des routes un peu vallonnées, un peu étroites, un peu de pluie. C'était vraiment la journée parfaite au final. Malheureusement, voilà, maintenant les équipes ils laissent plus d'écart. Hein. On a eu une 30. Bon, quand j'étais tout seul, ils ont laissé 2 minutes parce qu'il y avait le sprint intermédiaire, etc. Mais après, on a eu une 30. Bon, on peut pas aller très très loin et vraiment rivaliser.
Voilà. Il dit pas.
Pour avoir un résultat.
Il partira pas demain, mais pour avoir un résultat, c'était la dernière possibilité. Il comptait un peu sur la météo aussi.
On lui tire un grand coup de chapeau, évidemment. Il a fait de nombreux kilomètres à l'avant. Il est le plus courageux, le plus téméraire, même quand on n'a aucune chance. C'est un peu notre Jean-Claude Duss, quoi. C'est, on dit que tu n'as aucune chance, fonce. Bah, c'était ça, Baptiste, depuis le début du Tour de France. Mais aujourd'hui, il a été rejoint, puis c'est reparti. Ça aurait pu réussir, finalement. Donc, la chance sourit aux audacieux. Et quand on n'est pas le meilleur de tous dans un domaine, bah, il faut essayer des choses comme celle-là. Et chapeau à lui.
Quand on n'est pas fort, il faut être malin. Exactement. Et parmi les autres Français qui, là, pourraient éventuellement chercher une victoire d'étape, il y a Lenny Martinez, il y a Alex Baudin, il y a Romain Grégoire, éventuellement. Alors, quelle stratégie pour ces garçons? On va en parler dans un instant. Mais avec Maria Azé qui nous a rejoint. Bonsoir, Maria.
Bonsoir, Pierre. Bonsoir, tout le monde.
Surtout, j'aimerais que tu puisses nous donner un peu, même si tu n'as pas toutes les informations, bien sûr, l'état de fraîcheur de ces garçons, de ces Français.
Oui, bah, il va en falloir forme pour demain, forcément. Plus longue étape du Tour, donc demain, entre Dole et Belfort, 205 km. La seule étape, d'ailleurs, de plus de 200 km de cette édition du Tour de France. Et donc, bah, déjà, forcément, il y en a un qui n'est pas en grande forme depuis ce début de Tour de France, mais qui aura à cœur de briller sur cette étape. C'est Romain Grégoire, parce que pour aller à Belfort, on passera juste à côté de Besançon, sa ville de naissance. Et donc, forcément, ça donne des idées aux champions de France.
Ouais, dans le Ballon d'Alsace, c'est sûr qu'il y aura un peu de monde. Je passerai à côté de la maison au bout de 25 km. Donc une étape que j'attends avec impatience. Et je vais essayer d'en profiter et surtout de me montrer parce que ça peut être encore une étape qui peut s'ouvrir aux échappées. Ouais, ça donne des motivations supplémentaires. Je connaîtrai un peu les routes en plus, surtout sur les 50 premiers kilomètres que je connaîtrai par cœur. Donc ça me donne encore plus envie d'aller à l'avant et tenter des choses.
Sauf que pour gagner, il faudra passer, il en a parlé, le ballon d'Alsace, 8,9 km à 6,9%, un peu dur quand même pour les Romain Grégoire. On peut penser sinon à Mathieu Van Der Poel, Mats Pedersen qui pourraient vouloir remporter cette étape de demain, mais l'ascension est quand même un peu difficile. Ce qui pourrait convenir à des profils de grimpeurs-puncheurs, un peu plus comme le français Alex Baudin, mais encore faut-il réussir à prendre l'échappée. On l'écoute.
Ouais, c'est sûr, c'est une belle étape demain qui est propice aux échappées. Après, avec le départ qui est tout plat, ça va être... ça va être un peu la loterie pour prendre l'échappée. C'est souvent plus à la chance quoi, quand c'est comme ça au départ, même s'il faut toujours avoir des jambes. Mais bon, j'essaierai d'être devant demain.
Voilà, ils sont plusieurs dizaines à vouloir être devant demain. Et ceux qui devraient rester à l'abri, probablement, ce sont les favoris du classement général. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Paul Sexas et les autres. Car le week-end s'annonce éprouvant entre le Markstein samedi et le plateau de Solaison dimanche.
Mais nous, on a envie de miser sur les Français, évidemment. Richard, quel est celui peut-être qui te semble plus à même de pouvoir demain briller? On a évoqué Valentin Paré-Peintre tout à l'heure. Est-ce que ce ballon d'Alsace peut lui convenir? Est-ce qu'un Lenny Martinez peut aussi essayer d'aller chercher des points, même si Lenny Martinez n'est pas très loin au classement général et ça peut être un handicap? Richard, si tu nous entends. Ah, on a perdu Richard. Jérôme, vous pouvez répondre à la question, l'un et l'autre.
Bah, Jérôme Pinault. C'est l'étape de demain pour Lenny, tant qu'il n'a pas choisi classement général ou maillot à poids, c'est pas lui qui va choisir peut-être, hein, c'est quand il va vraiment peut-être péter ou jamais péter, donc il aura jamais le choix que de ne pas avoir les échappés, mais pas demain. Demain, Alini, il doit rester au contact des meilleurs, au contact des favoris, quitte à voir revenir quelques coureurs de derrière qui auront pris du temps dans l'échappée. Hein, si je vois bien un coureur comme Johannessen essayer d'aller devant demain, parce que c'est une possibilité aussi de regagner du temps. Mais Lenny, il n'a pas de choix aujourd'hui dans la position dans laquelle il est que de s'inscrire dans une course parmi les favoris.
Jérôme Coppel.
Ouais, je suis complètement d'accord avec Jérôme. Si je devais sortir un ou deux noms côté français, j'en aurais même trois. Valentin Paré-Peintre, bien sûr, on en a parlé, le numéro qu'il a fait aujourd'hui en roulant, etc. Alex Baudin, on vient de l'entendre. Le plus dur pour Alex, je pense, ça sera de réussir à prendre l'échappée. Et puis Jordan Gegat. Ouais. J'aimerais bien le voir sur une étape comme ça. Mais même combat qu'Alex Baudin, va falloir réussir à être dans l'échappée. Là où je pense que Valentin Paré-Peintre, après tout ce qu'il a fait sur les étapes de plaine, va avoir quasiment une équipe, à part Van Wilder, quasiment une équipe à sa botte pour essayer de le mettre dans l'échappée. Donc ça, c'est quand même un gros plus d'avoir... Alors, bien sûr, il fait le jeu d'équipe, mais d'avoir ce type de coureur avec soi pour bien frotter, pour pouvoir l'éjecter dans l'échappée.
Je rajoute un nom à cette liste. Un coureur français qui est en train de reprendre un peu de vie. On a vu très bien placé aujourd'hui, qu'on a vu se replacer, qu'on a vu attaquer.
Dans la nette
Kevin
compagnie.
Kevin Vauclin. Ouais. Et demain, Kevin, il est capable d'aller dans l'échappée parce qu'il roule fort et il grimpe bien. Alors, on tombera toujours sur un bon grimpeur. Parce qu'il y aura toujours un mec qui va bien dans les bosses.
Il fait 7 du tour, hein, Kevin Vauclin, l'an passé, donc il grimpe quand même.
S'il retrouve des bonnes jambes, il peut être demain un des favoris, en tout cas, un des outsiders de cette étape.
Et puis méfions-nous de Thibaut Pinot aussi. Hein. On arrive sur cette terre.
Ça sera un sprint intermédiaire. C'est pas trop pour Thibaut, mais
on passera à Mélissé, effectivement, au sprint intermédiaire.
Attention dans les échappées. Demain, il va y avoir beaucoup de monde. Moi, je tiens à préciser une chose, hein, c'est que demain, c'est échappé logiquement. Mais après, demain et dimanche, il n'y a pas d'échappée. On connaît la puissance du AE sur ces parcours-là. Ils vont ramener tout le monde à la raison. Tout le monde va vouloir y aller. Ça va rouler très vite dès le départ. Il va y en avoir partout.
Donc en fait, c'est demain qu'il faut en profiter.
Mais à mi-course, ils vont être à 1 minute 30 de la tête et ils vont vouloir gagner l'étape.
Et d'ailleurs, Richard, est-ce que ce n'est pas aussi une possibilité demain que finalement on se dise, oui, il y a des opportunités et puis que dans ce ballon d'Alsace, il n'y ait pas des écarts énormes et qu'on voit la puissance du AE?
Non, je pense que demain, c'est vraiment l'étape pour les échapper, comme vous l'avez dit avec tous les coureurs que vous avez cités. Totalement d'accord et... Il y a vraiment une opportunité et comme on le dit, les 150 km sont plats. C'est là où il va y avoir une frustration parce que ça va être au bonheur la chance. Mais bon, peut-être l'équipe Quick-Step pourra jouer parce qu'elle va être dédiée à Valentin Paris-Peintre. Donc, ça sera peut-être une bonne chose parce que s'il se retrouve devant, dans le ballon d'Alsace, il pourra vraiment jouer et faire de bonnes choses. C'est sûr que aussi Kevin Vauclin reprend des couleurs. Et il peut aussi, comme il a entre guillemets un peu loupé son tour, se rattraper en essayant d'aller gagner, chercher une étape, il pourrait le sauver. Donc, je crois que vraiment demain il y a une belle opportunité pour les échapper. Et derrière, ça va être, on va se regarder dans le blanc des yeux. Peut-être ceux qui seront un peu fébriles vont sauter par l'arrière pour les favoris. Mais je pense qu'il n'y aura pas grand-chose qui va se passer, à moins que, attention, si les conditions climatiques changent. Qu'on arrive dans la descente du ballon d'Alsace, en tout cas moi c'est ce que j'aurais fait en étant leader, de faire la descente plein pot pour éliminer des favoris, donc ça c'est sûr.
Ah, il peut y avoir deux courses
dans la bagarre, effectivement, dans la deuxième partie de cette course. On a quelques minutes avant de retrouver les auditeurs qui vous posent des questions, messieurs, à tous les trois, nos consultants, pour ouvrir un petit dossier. Quelques minutes, parce qu'on n'a pas pu l'ouvrir hier. On ne va pas le supprimer tous les jours. Et moi, je vois des éclairs autour ici à Chalon-sur-Saône. Ça veut dire orage, ça veut dire chaleur. On l'a connu énormément en ce début de Tour de France. Et certains coureurs se sont exprimés sur un changement du calendrier, un bouleversement du calendrier mondial. Pourquoi pas un Tour de France qui ne serait plus en juillet. Christophe, c'est latent. Ça revient depuis quelques mois déjà. Ça a été évoqué plusieurs fois. Et on écoutera Tadej Pogacar dans quelques instants.
Et ça revient surtout depuis le début de ce Tour de France, avec une canicule très marquée. Depuis qu'on est parti d'Espagne, il n'y a pas une seule journée de fraîcheur. Et effectivement, le patron du peloton, Tadej Pogacar, avait ouvert la boîte de Pandore il y a quelques jours, expliquant que s'il en avait le pouvoir, il modifierait tout le calendrier de l'UCI et n'organiserait plus de courses en juillet ni en août, au moment où le thermomètre s'affole et devrait encore un peu plus monter dans les tours dans les années à venir. La prise de position du maillot jaune qui en a fait réagir d'autres, comme Alex Baudin, qui lui préconise une inversion entre le Giro et la Vuelta, respectivement organisée en mai et fin août, histoire d'éviter les problèmes de froid en Italie et de chaleur en Espagne. Et le Tour de France dans tout cela, me direz-vous, eh bien il faudrait lui trouver une petite place et surtout le déloger de sa tradition ancestrale du mois de juillet, lui qui tout au long de ses 113 éditions a toujours été organisé lors du 7e mois de l'année, le mois des vacances des Français, le mois où le calendrier sportif lui laisse la part du roi. Une seule exception à la règle en 2020 lors du Covid où le Tour avait débuté en septembre après le premier confinement. Mais déménager du mois de juillet à Esso, l'organisateur du Tour ne veut surtout pas en entendre parler. La place est trop belle, les audiences magnifiques, elles ne seraient certainement pas les mêmes en mai, juin ou même septembre, période moins propice à de longues après-midi passées devant la télé entre une sieste à l'ombre et un apéro arrosé. Alors, si on ne change pas de calendrier, pourquoi ne pas envisager un changement d'horaire en faisant débuter les étapes un peu plus tôt dans la journée, histoire de ne pas courir aux heures les plus chaudes de la journée. Certains évoquent des départs entre 8h et 9h du matin pour des arrivées aux alentours de 13h. Là aussi, ce changement envisagé s'apparente à un vrai casse-tête. Cela contraindrait par exemple les coureurs et les staffs à se lever à l'aube, 5h30 du matin.
Et les journalistes.
Pour le petit déjeuner qui doit être pris longtemps. Oui, mais nous, c'est pas grave. Le petit déjeuner, on peut le prendre toute la journée. Mais les coureurs, ils sont obligés de le prendre quoi, 2-3 heures avant le début de la course.
3 heures, ouais.
3 heures. Ça poserait également problème aux spectateurs contraints de partir quasiment en pleine nuit pour se placer, notamment ça dans les étapes de montagne. Et le problème le plus difficile à résoudre est encore celui de la télévision qui, dans le modèle économique du cyclisme, est capital. Le vélo repose, on le sait, en très grande partie sur les droits télé et il apparaît très compliqué de convaincre France Télé et les autres diffuseurs de renoncer aux heures de grande écoute de l'après-midi pour se décaler en fin de matinée. À titre de comparaison, sachez par exemple que le match de rugby entre la France et la Nouvelle-Zélande la semaine dernière n'a rassemblé devant leurs petits écrans le matin qu'un million et demi de téléspectateurs, alors qu'une telle affiche en novembre 2024, en soirée, avait attiré plus de 7 millions de Français. Le sport le matin, c'est pas rentable pour les diffuseurs et sans la main des diffuseurs, point de salut, même pour le Tour de France.
Oui, mais ça, c'est les amateurs de rugby, ils se lèvent pas le matin.
Moi, j'ai pas été instituteur, mais là, pour une fois, je vais noter ton papier. Excellent. Tu changeras juste une chose.
Ah, donc c'est pas excellent.
Non,
j'ai pas 10. Je
te mets pas 20. Je mets 17. T'as fait une grosse erreur. Le cyclisme ne repose pas sur
le
Tour de France.
Les organisateurs.
Le droit télé.
Pour les organisateurs, c'est la manne.
Très différent.
Ouais. Ouais.
Cette course repose sur les droits. On rappelle à nos auditeurs que les droits télé versés à ASO pour la course
ne sont pas reversés aux
équipes. Wallou, zéro, pas un euro.
Donc, si tu n'as pas d'organisateur, tu n'as pas de course.
Si tu n'as pas de coureur, tu n'as pas de course.
Donc, tu arrêtes le vélo.
Voilà.
Donc, on fait autre chose.
Non, mais
on se met au pédalo, les gars.
Non, mais donc, la pression.
Il y a peut-être un juste milieu à avoir.
Donc, la pression peut venir des coureurs, et notamment des coureurs qui gagnent des Tours de France. Tadej Pogacar, qu'on écoute.
C'était un vaste sujet de discussion, mais si j'avais le pouvoir de tout modifier, je changerais tous les calendriers et je n'organiserais pas de courses en juillet et en août dans les régions chaudes. C'est quelque chose qui demande une grande réflexion, ce n'est pas quelque chose de mon ressort. Peut-être que la prochaine étape sera de proposer de commencer à 10h, mais pour moi ça ne change rien, car on finit en pleine chaleur. Aujourd'hui, il faisait bien moins chaud à l'arrivée qu'au départ. Il faudrait donc commencer à 8 ou 9 heures, voire plus tôt encore. C'est aussi une solution un peu merdique, mais je pense que le corps peut s'adapter à cela aussi, se réveiller à 5 heures du matin et disputer une étape à 8 heures. Dans notre équipe, on s'en sort plutôt bien avec cette chaleur.
Tu l'imagines, Richard, des départs à 9 heures du matin et surtout un Tour de France qui ne serait pas en juillet. Alors, on l'a connu avec le Covid, ça s'est très bien passé. Est-ce que tu penses que les choses peuvent changer de façon aussi importante?
Non, franchement, ça gâcherait l'ambiance du Tour. Vous imaginez les spectateurs, le public, la caravane, tout ça. Et bon, on parle parce qu'il a fait 38, 39 degrés pendant quelques jours. Mais après, là, à partir de demain, les températures vont redescendre. Mais moi, ça tuerait le Tour de France. Même en tant que coureur, déjà, même quand il y a une étape à midi ou 10 heures, on se lève tôt le matin, on ne se lève pas tard parce qu'il faut manger 4 heures avant. Donc, vous imaginez anticiper ça. Et voilà. Et le Tour, c'est quoi? La magie du Tour, c'est quoi? C'est les gens au bord de la route qui nous saluent, qui hurlent, qui... toute cette magie-là. Vous imaginez de les faire venir à 3 heures du matin, tout ça. Mais c'est un cirque complet, quoi. Donc, moi, à mon avis, les coureurs s'adaptent. Malheureusement, quand il fait très chaud comme ça, le plus dur, vous savez, c'est quoi? C'est les spectateurs au bord de la route qu'il faut qu'ils s'équipent différemment. C'est surtout ça, parce que les coureurs, ils s'adaptent, même ils souffrent. Ils sont là pour souffrir, on est là pour souffrir. C'est clair qu'on s'en passerait de rouler à 40 degrés ou un truc comme ça. Mais bon, c'est pareil quand les températures sont à 2 ou 3 degrés. Le coureur s'adapte et quand il prend une pelle, il se relève, il est brûlé partout, il repart comme un guerrier. Voilà, c'est ça la mentalité du Tour de France, en tout cas du coureur cycliste. Et pour moi, si on change les donnes avec les horaires, à une heure près, on pourrait le faire, mais ça ne va rien changer. On tuerait l'ambiance du Tour.
Non, moi, j'ai pas de dissolution. Il y en a. Alors, j'ai déjà un constat, c'est que Tour de France en juillet, c'est la fête, c'est les vacances. Si on le met ailleurs, c'est pas la même chose.
Christian Prudhomme a dit tout à l'heure, hors de question.
Ça, une chose. Deuxième chose, l'année prochaine, on part d'Angleterre. On part à 5h, on part à 6h, on part à 8h.
On part d'Écosse, hein, pas d'Angleterre. Je te mets pas 20 sur 20.
Il va y avoir des icebergs au départ de la course. Hein.
On sait que dans le temps, sur du très long terme, les températures aujourd'hui, on va les retrouver. Mais d'une année sur l'autre, on n'en est encore pas sûr. C'est sûr que ça va évoluer vers le plus chaud, mais on n'aura pas 40 degrés l'an prochain et 50 l'année d'après. Donc l'année prochaine, on peut se retrouver avec des températures proches de zéro à 9h du matin au Grande-Bretagne. Ça peut arriver.
Donc La solution,
bah, des étapes plus courtes. Quand on souffre de la chaleur. Si on arrive à être sur la route que 3 heures, comme hier, ils ont roulé à 51 l'heure, on a une très belle course, des courses de 120, 130 bornes, ça roule très vite, ça fait 3 heures, on a chaud, mais ça ne dure pas longtemps, tout le monde rentre chez soi, on est frais et on assiste à un beau spectacle quand même.
Ça te va, Jérôme Coppel?
Oui, ça me va.
Je ne sais pas si les organisateurs seraient d'accord, parce que les droits télé baisseraient sans doute un peu.
Bah hier, on avait 3h15 de course, Chris. Hein.
Ouais, mais est-ce que tu peux le faire
sur
les 20
minutes? Non, mais il y a aussi le truc du Tour de France qui fait 3300 et quelques kilomètres.
Ouais, mais il va falloir trouver des solutions.
De 120 bornes, tu fais 25 étapes.
On fait 4 semaines.
Ouais, c'est ça, tu fais 25 étapes.
Non, tu fais le Tour de France en Norvège.
Journée de repos.
Ouais, voilà, tu pars de Norvège, tu descends, traverses par la Grande-Bretagne et puis tu fais la dernière étape.
L'arrivée au champ, voilà.
Arrivée, les montagnes, tu passes par les monts d'Arène où ça nous va bien. On arrive au sommet du mur de Bretagne.
Je sens que vous n'y êtes plus du tout. Vous êtes en train de décrocher. Il reste 7 minutes. Je vois bien que vous êtes plus sérieux. On va être à nouveau dans l'After Tour avec nos auditeurs et Jonathan qui nous rejoint. Bonsoir, Jonathan.
Bonsoir à tous.
Merci d'être en notre compagnie. Je te laisse avec Richard Virenque, Jérôme Pinault et Jérôme Coppel pour que tu puisses leur poser la question ou les questions.
Alors c'est un très grand honneur déjà d'avoir trois champions face à moi. Non, juste pour rebondir sur votre débat, c'est pas Gachar qui en parle et tout, mais vous avez l'impression, vous, dans la caravane, c'est vraiment un problème, c'est vraiment un souci. On va vraiment se poser la question de décaler les horaires du Tour, de décaler, de modifier tout ce que représente le Tour. D'accord, cet été c'est très difficile, il fait très chaud, c'est très compliqué, mais. Et on s'adapte, non? Enfin, c'est plus dur de faire ce qu'ils font cette année que de courir en février, en mars, avec la pluie, de courir le Giro des fosses ou la neige. Enfin, qu'est-ce qui est... Ça va être compliqué de trouver des solutions pour tous les sujets climatiques. Hein. Le vélo, là, maintenant, déjà, il y a beaucoup de courses qui sont annulées à cause de ça, à cause de la pluie, à cause de la neige, à cause de la chaleur. Enfin, le problème, il est plus profond que ça. Hein. Si on commence à vouloir décaler la plus grande course du monde à cause des aléas climatiques, moi, je me rappelle quand je faisais un tout petit peu de vélo, j'étais content qu'il faisait chaud, même 45 degrés. Et attention, le tour, c'est beaucoup plus dur, il n'y a pas de problème. Hein. Je compare pas ce que je faisais avec ce qu'ils vivent. Mais je pense qu'ils souffrent plus du tempo du AE pendant 4 heures à 50 à l'heure que de la chaleur, enfin, je crois.
Et les Jérômes qui sont au cœur du tour là, vont te répondre. En tout cas, le constat qu'on peut faire, c'est que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'abandon.
Non, t'as raison, Jonathan, il n'y a pas beaucoup d'abandon. Je pense que le tour, personnellement, je ne crois pas du tout qu'il changera de date. Et t'as raison, quand tu dis le Giro, c'est sous la neige, etc. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Alex Baudin. Pourquoi on ne switcherait pas le Giro et la Vuelta? Parce qu'à la Vuelta, bah, au mois de septembre, il fait chaud. Et puis peut-être qu'au mois de mai, ça passerait mieux. Mais il ne faut pas oublier que la Vuelta, désolé, j'adore cette course, je l'ai fait plusieurs fois. Mais pour la moitié du peloton, soit c'est une punition parce que c'est en fin de saison, soit c'est une préparation pour les championnats du monde, ça n'a pas le même standing. Donc si tu mets le Giro à ce moment-là, bah, le Giro bien sûr ne sera pas d'accord non plus. Et moi personnellement, je préférerais maintenant rouler par les températures qu'ils ont là que quand on voit les mecs au Giro avec la doudoune en haut des cols parce qu'il neige et qu'il fait froid. Donc, mais c'est pas parce que je suis d'accord, le Tour de France pour moi il ne doit pas bouger du mois de juillet parce que c'est aussi la France, le Tour de France, c'est les vacances du mois de juillet, etc. Mais il y a peut-être des adaptations à trouver pour améliorer le confort des coureurs et des suiveurs aussi.
Richard, peut-être les étapes plus courtes, comme disait Jérôme Pinault.
Oui, c'est une solution, les étapes plus courtes. Et surtout, moi, ce qui me fait sourire, c'est les commissaires qui allument les coureurs quand ils prennent un bidon. Là, on devrait mettre par contre des amendes aux commissaires qui
mais eux, ils devraient avoir interdiction de mettre la clim dans leur bagnole, comme a dit Matteo Trentin. Mais... pas de clim, fenêtre ouverte, et vous allez comprendre ce qui se passe.
Ouais, je pense que les bidons, ils vont être contents de les donner parce que là aussi, c'est du n'importe quoi. Ça, un bidon, c'est pas parce qu'on prend un bidon qu'on va tricher. Donc, le bidon collé, ça c'est fini. Hein. C'était dans les années 70 où il y avait des bidons collés. Bon, de temps en temps, il y en a
qui font. Il y en a qu'encore quelques-uns quand même.
On a vu. Pourquoi ? Parce qu'il y a les caméras partout. Mais bon, c'est surtout la santé des coureurs et boire. Boire, c'est important, surtout quand on est, on va dire, avec ces températures et avec.
On demande à Gégé Pinault, lui, il boit. T'inquiète pas, il a pas de problème de chaleur.
En général, quand mon verre est plein, le tien est aussi plein. Non, mais c'est sûr. Je suis d'accord avec les garçons et je suis. Pour moi, le tour en juillet, on peut pas faire ça autrement. On fait Noël le 24 décembre, on fait Pâques à Pâques, on fait le tour en juillet. Ça fait partie du patrimoine français. Tout à l'heure, avec Christophe, à la pause, on parlait avec trois personnes adorables qui passent les trois semaines de leurs vacances sur le Tour de France. Comment voulez-vous changer ça? On s'adapte, on ralentit, on diminue les distances, on fait peut-être un changement d'horaire, on fait comme l'autre fois les 30 km de moins. Mais on ne pourra pas tout changer.
Pas dans la radicalité.
Non, le seul problème viendra peut-être de nos routes. De l'impraticabilité de nos routes. Le terrain de jeu sera peut-être privé parce que certains préfets politiques diront non, nous on peut pas parce qu'on n'a pas les forces de secours nécessaires. Peut-être que ça deviendra un problème économico-politique, mais pour ce qui est du sportif, tant qu'on peut faire ça en mois de juillet, il ne faut rien changer.
Il y a quand même des modèles de prévision météo qui annoncent des 48 degrés peut-être cet été. Là, ce jour-là.
Les étapes seront annulées.
Oui, les étapes seront annulées, mais certainement. Si tu as un Tour de France avec trois ou quatre étapes annulées, ça ne ressemblera plus à grand-chose. Hein.
Ouais, non, mais c'est sûr. Après,
il va falloir s'adapter quand même.
On a déjà fait des tours d'Espagne, départ à Grenade, où il faisait 45 le matin à 10h sur la ligne.
Ouais.
On nous a lancé. Je pense qu'on réfléchit aussi. Alors, tant mieux, beaucoup plus aujourd'hui qu'auparavant. Il ne faut pas oublier qu'il y a 60 ans, 50 ans, il faisait aussi très chaud au mois de juillet. Alors, peut-être moins qu'aujourd'hui, mais sous le maillot en laine, avec peu d'eau, avec des pentes et pas de braquet 4 vitesses, hein. on mettait les gars en danger aussi.
Ouais, mais les mecs s'arrêtaient pour boire des coups de pinard à l'époque.
Et encore une dernière chose comme argument, au Tour de Suisse, la semaine d'avant le Tour de France, il y avait une grosse chaleur, il y a eu quelques coups de chaud sous le casque de chrono. Ici, au Tour de France, je n'ai pas vu un coureur se mettre sur le bas-côté et abandonner à cause d'un coup de chaud. Donc, on s'adapte.
Merci Jonathan d'être avec nous dans l'After Tour. On va conclure dans quelques instants. Au plaisir de te retrouver éventuellement avant la conclusion du côté des Champs-Élysées. Il nous reste notre petite minute habituelle pour le pronostic de demain. On commence par, alors attention, Jérôme Coppel.
Demain, je vais miser sur Carapaz. J'ai dit qu'il fallait un bon grimpeur, un bon descendeur. Il a montré qu'il était bien sur l'étape du Lioran. Donc je mise sur l'équatorien.
Très bien. La fable du lièvre et de la tortue, c'est Carapaz qui va passer le premier la ligne. Jérôme Pinault.
Moi, je mise sur Valentin Paré-Peintre.
Très bien.
La passe de 4 pour Quick-Step et je l'ai vu très, très costaud aujourd'hui.
Ça serait fort. Christophe Cessieux.
Tom Pidcock.
Ah ouais. Descendeur.
Formidable descendeur. Exactement. S'il arrive à s'accrocher, à être dans les chariots.
N'oublie pas qu'il est derrière lui au classement général, il y a Egan Bernal. Ouais. Ça va rouler vite sur
Richard. Richard, ils en ont pris 3, mais tu as le droit de copier si tu veux.
Ouais, non, pour cette fois-ci, je vais être un peu joueur. Kevin Vauquelin.
Ah, très bien. Très bien. Alors là, j'ai bien retenu vos pronostics et on fera les comptes
aujourd'hui.
Demain.
Ouais, c'est on vrai, a tu gagné as gagné aujourd'hui.
C'est vrai, Richard, tu as gagné aussi.
Parce que vous faites des paris sportifs.
On a fait le plein.
Virer des pièces jaunes sur un compte bancaire, c'est compliqué, hein, Richard. Les primes sont pas chères ici.
Merci, messieurs. Bonne soirée et on se retrouve dans l'After Tour pour l'entrée. Et après, on aura le plat et le dessert. Un beau week-end à venir. Ciao.
RMC, l'After Tour.